Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et donc, on reçoit aujourd'hui le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, Fred.
Et d'abord, on va écouter ceci.
Bueno, listos? Ya? 3, 2, 1, comenzamos.
Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada de 1994.
A nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, declaro formalmente...
Et nous allons donc au Chiapas, nous allons parler de l'EZLN, l'armée zapatiste de libération nationale, qui est née aux yeux du monde le 1er janvier 1994. Pourtant, l'EZLN, l'armée donc zapatiste de libération nationale, est née formellement le 17 novembre 1987. Et depuis l'EZLN n'a cessé de donner des signaux au monde entier. On retiendra peut-être 1996 avec les premières rencontres internationales pour l'humanité et contre le néolibéralisme. Et plus proche de nous, en 2001, la marche de la couleur de la terre, marche pendant laquelle les zapatistes ont parcouru le pays, le Mexique. Aujourd'hui et depuis juillet, depuis la déclaration de la sixième déclaration, les zapatistes sont entrés peut-être dans une nouvelle étape de leur mouvement. On va en parler avec Liouvan et Joanny, qui sont tous les deux militants au CSPCL, le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Joanny, toi, tu habites en plus au Mexique. Tu as travaillé autour d'un film, notamment dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais qui s'appelle La Fragile Armada, qui a été tourné pendant la marche de la couleur de la terre. Qu'est-ce qu'il faut garder de l'histoire récente depuis 94 du mouvement zapatiste?
Eh bien, je pense que le résumé que tu donnais était déjà un point de repère. En 1994, ils apparaissent aux yeux du monde, comme tu disais, c'est-à-dire qu'ils font un soulèvement armé de dizaines de milliers de gens qui prennent cinq villes, mais ils existaient de manière clandestine depuis 1983. Ensuite, il y a immédiatement une guerre qui se termine par un cessez-le-feu le 12 janvier. Il y a des combats très violents où ils encerclent l'armée, où ils ont pris ces villes. Et puis, les manifestations des villes font que, depuis le 12 janvier, on est en état de cesser le feu. Il y a même des périodes de reprise de la volonté de les écraser militairement. C'est en 1995, l'offensive avec les tanks sous le président Cedillo, le dernier président du PRI, du Parti Révolutionnaire Institutionnel. Et puis, à ce moment-là, entre de nouveaux pourparlers... ce sont les accords de San Andrés signés en 96 et qui accordent une autonomie à l'intérieur de l'État mexicain aux peuples indiens. Mais ces accords ne sont jamais appliqués et les pourparlers ne repartent jamais. Et puis en 2001, entre autres après d'autres initiatives comme une consultation nationale, une marche dans toutes les communes du pays de délégués des zapatistes, en 2001, ils font cette marche de la couleur de la terre pour exiger l'application de ces accords. Et là aussi, ils rencontrent énormément de gens, ils parcourent 12 États, ils font un voyage de 3000 km, ils obtiennent énormément de contacts, ils obtiennent la libération de certains prisonniers, l'éloignement de certaines bases militaires, mais ils n'obtiennent toujours pas l'application de ces accords. En 2003, ils ont décidé que... Si la constitution mexicaine ne reconnaissait pas cette autonomie indienne, elle existait néanmoins. Ils l'ont constaté, ça existe chez les peuples du Chiapas, mais aussi chez beaucoup d'autres peuples. Et donc, ils ont décidé de la pratiquer ouvertement et ils ont ouvert 5 endroits qu'ils ont appelés les 5 escargots, les 5 caracoles. Et ils ont, dans ces gouvernements régionaux, construit énormément de choses, des écoles, des hôpitaux, des conseils de justice aussi, et des coopératives de production, des choses comme ça. Donc, ils ont mis en pratique cette autonomie. Mais néanmoins, ils ont pensé à un certain moment, en 2005, à l'été dernier, que construire cette autonomie tout seul, ça ne suffisait pas, qu'il leur fallait repartir sur les routes.
Alors, le Chiapas est quand même un état très pauvre du Mexique. Même si l'autonomie est en route depuis la naissance des caracoles, la situation quand même reste difficile et précaire au Chiapas aujourd'hui.
Oui, ça c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est une situation où non seulement il existe une misère qui date d'années et de décennies, mais aussi où les nouveaux plans globalisateurs, néolibéraux, risquent d'avoir un effet terrible. Ce que disent les zapatistes à l'heure actuelle, c'est si on ne défend pas ce que nous avons maintenant, nous n'aurions plus rien à défendre.
En fait, un peu expliquer la misère, c'est pas les peuples qui sont pauvres tout seuls aussi, c'est la situation dans laquelle on les a soumis quoi. Au Chiapas depuis la conquête, en gros, les communautés indiennes elles sont dans un état d'exploitation totale par une minorité qui est la minorité ladina métisse qui vivait dans les villes. Et donc qui a entrepris une exploitation mais féroce, extrêmement féroce des communautés jusque dans les années 70, jusqu'à ce qu'il y ait des mouvements très très forts qui reprennent les terres, etc. Mais il y avait des esclaves jusqu'en 94, quoi, jusqu'au soulèvement zapatiste, il y avait des peones, des esclaves indiens sur les plantations. Donc c'est dans ce contexte aussi qu'il faut replacer à la fois le soulèvement et à la fois la situation qui est la leur, quoi. C'est pas une misère, comme partout dans le monde, c'est pas une misère qui est due au fait qu'ils n'arriveraient pas à se débrouiller. C'est une misère qui est due à la colonisation, ensuite à l'exploitation du 19e siècle sur les grands domaines et ensuite qui s'est perpétué jusqu'à maintenant.
Alors si on parle des zapatistes, est-ce qu'on pourrait avoir qui sont les zapatistes et sur quelle base sociale est-ce qu'ils reposent? Quel est le rapport avec la question ethnique ou indigène? Qui ils sont?
Ils sont ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils apparaissent en 94, avec une parole très forte, des combats aussi très forts. Ils sont ce qui semblait impossible au Mexique, un complot de plusieurs dizaines de milliers d'Indiens, prenant complètement de court l'armée, surprenant la police, et pourtant elle est très très bien faite, et les services secrets, personne ne se doutait de leur apparition. Ils sont des gens qui proclament une rébellion. Ils n'utilisent pas le mot révolution. Ils sont des gens aussi qui se réfèrent toujours à des images mexicaines. Il y a Che Guevara qui est l'exception. Mais Zapata lui-même, leur figure centrale, c'est quelqu'un qui a pour caractéristique d'être une figure clé de l'histoire du Mexique, qu'on apprend à l'école, etc., qu'on adoucit dans les livres d'histoire, mais qui représente une forme de rébellion très très forte, d'autant plus forte qu'elle ne veut pas prendre le pouvoir.
Alors je vois bien la démarche politique, mais ça s'inscrit comment il y a la question indigène. Est-ce qu'il y a une autre, il y a une base sociale? Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont venus vers le Chiapas d'autres horizons géographiques? Socialement, ça se compose. Est-ce qu'on a une idée de comment se compose ce mouvement?
À la base sociale, elle est paysanne. À 99%, elle est paysanne. C'est des paysans de communautés indiennes de différentes régions du Chiapas qui sont un peu différentes à la fois de par leur histoire, ensuite de par leurs coutumes, etc. Il y a les communautés indiennes, on va dire traditionnelles, qui existent depuis des centaines d'années, dans la partie des hauts plateaux. Et après, il y a toute une zone, en fait, toutes les zones, en fait, où il y a eu des grands domaines sur lesquels il y avait des peones. Donc, c'était des grands domaines sur lesquels ils étaient les serviteurs et qui ont été récupérés au XXe siècle. Pour quelques-uns, pour certains, à travers la réforme agraire, mais surtout par des luttes paysannes qui ont été très fortes et qui ont été réprimées très férocement, quoi. Et aussi dans une troisième partie, par un mouvement des communautés indiennes qui ont colonisé la forêt tropicale. Donc c'est la Selva Lacandona qu'on entend souvent quand on parle du Chiapas. Et là où le mouvement, où petit à petit, en fait, les communautés, elles sont auto-organisées, en fait. C'était une zone où il n'y avait pas du tout de structure étatique. Ils ont été laissés tout seuls. Le gouvernement leur a dit, vous pouvez coloniser ces terres, mais il n'y a jamais eu aucun aménagement. Et donc, ils l'ont fait petit à petit tout seuls. C'est une zone qui depuis les années 70-80, c'est auto-organisé. Donc, c'est un peu les racines du mouvement. Elles sont ancrées dans des formes d'organisation propres aux Indiens. Et ensuite, un mouvement qui petit à petit a vu que par les simples revendications sociales, il pouvait pas aboutir dans le contexte du Chiapas de l'époque où c'était une répression extrêmement dure et où il y avait plus d'autre voie que le néolibéralisme qui était annoncé et où toutes les organisations sociales arrivaient plus à avancer. Et donc là, c'est la décision armée qui a petit à petit convaincu des dizaines de milliers de paysans de faire un soulèvement, quoi. Que c'était en 94, c'était ils disaient, leur message c'était soit on meurt dans l'oubli, soit on meurt par les armes. Donc autant qu'on meurt par les armes plutôt que par l'oubli. Et ensuite, à partir du moment où il y a eu le soulèvement, il y a un autre espoir qui est apparu, celui de ni mourir par les armes ni mourir par l'oubli. Mais ça, il a fallu que il y ait des gens qui soient qui comprennent qu'il y ait une lutte, qui comprennent que et qui soient solidaires de cette lutte, quoi. Sinon, c'était désespéré, quoi.
Et justement, cette solidarité au Mexique, en tout cas, comment elle apparaît ce 1er janvier 94, comment se réveille le Mexique et la gauche mexicaine, Joanie?
La gauche mexicaine a la gueule de bois comme tous les 1er janvier parce qu'elle a bien festoyé. Et comme la droite, comme le centre, comme le parti au pouvoir et comme tout le monde, et comme moi aussi, s'aperçoit par certains indices à la radio, assez discrets, qu'il s'est passé quelque chose au Chiapas. Et brusquement, effectivement, cette chose va évoluer jusqu'à prendre une importance extrêmement grande. C'est maintenant une voix constante depuis 12 ans. C'est une voix qui peut commenter aussi bien des événements les plus divers, et qui des fois se tait, et des fois aussi manifeste par son silence certaines choses. Je crois qu'on cohabite avec les zapatistes au Mexique et qui sont devenus une pièce importante du paysage politique, qu'ils contredisent absolument tout le reste et que pour la première fois au Mexique, il y a des gens qui n'ont pas dit de conneries et qui ne se sont pas vendus, qui ne se sont pas trahis. Très étonnant dans l'histoire du Mexique où, si vous récapitulez le XXe siècle, c'est que des histoires de répression, de trahison.
Thank you. que tu trabajo se dirige a nuestro pueblo. Por eso te festejamos, muy contentos te cantamos. Muy pronto nuevas voces, muy gustosos gritarán que
Et donc vous êtes toujours sur, vous écoutez toujours Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel et nous sommes au Chiapas, au Mexique plus généralement, pour parler des zapatistes. On a essayé de comprendre les racines de ce mouvement donc qui est né, donc, comme je le disais tout à l'heure, aux yeux du monde en 94. Joanie, tu évoquais les débuts et cette connexion avec dès le départ finalement avec la société civile, en tout cas, enfin, disons, pour aller vite. Comment ça s'est passé progressivement, ce rapport entre le mouvement zapatiste et la société civile au Mexique?
Ben, selon ce que racontent les zapatistes, de leur vision de ce qui s'est passé après leur apparition, c'est déjà les manifestations de gens dans des villes qui, de la société civile qui ont permis d'établir le cessez-le-feu. Ensuite, peu à peu, effectivement...
Des manifs de soutien ou des manifs contre...
Des manifs pour arrêter, pour le cessez-le-feu. Il faut dire que le 12 janvier, on était arrivé au point où l'armée avait déjà rassemblé pas mal d'avions, bombardé des villages, etc. Donc, il y a peut-être aussi cet élément pacifiste qui est arrêter le massacre ou, en général, cesser le feu.
Si je peux juste me permettre pour répondre à ta question, Pierre, c'est qu'en 94, quand ils soulèvent, ils sont persuadés que le reste du Mexique va prendre les armes avec eux. Donc ils sont vraiment convaincus qu'ils sont partis dans une guerre qui va être assez globale. Et il se passe un peu autre chose, c'est-à-dire qu'il y a des manifs partout qui demandent la paix. Et c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas envisagé de cette façon-là. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils vont se reposer la question de leur mouvement et de leur rapport à cette société civile qui leur montre à la fois une solidarité, mais sans prendre les armes, mais plutôt en demandant la paix. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont, qu'il va y avoir ce cessez-le-feu et qu'ils vont complètement changer d'optique sans jamais rendre les armes non plus.
Alors peut-être qu'aussi à ce moment-là, il y a quelque chose d'important, de constitutif du mouvement zapatiste. Et dans un premier temps, c'est une lutte armée pour une prise de pouvoir.
Oui, c'est enfin non.
Non.
C'est une lutte armée, mais on ne sait pas si elle veut prendre le pouvoir. Pourquoi s'appelle-t-elle zapatiste? Ça reste un mystère. C'est-à-dire que ça nous a obligés à nous demander qui y avait derrière le masque de Marlon Brando dans le film Zapata. Qui c'était ce Zapata. Et quand on voit l'histoire et quand on voit la façon dont Zapata a l'occasion, avec Pancho Villa, de conquérir la ville en 1915, de s'asseoir sur la chaise présidentielle ou dans le salon, etc., et de repartir ensuite, il y a quelque chose d'anti-pouvoir dans cette référence au zapatisme.
Dès le départ,
ce qu'il faut voir, en fait, c'est que... Enfin, c'est une histoire qui est complexe, mais c'est l'histoire aussi de la rencontre entre ce mouvement, c'est aussi l'histoire de la rencontre entre on va dire la gauche révolutionnaire mexicaine et latino-américaine et les communautés indiennes, quoi, et qui fonctionnent pas selon les mêmes principes, qui ont souvent été sur deux planètes différentes avec dans beaucoup de cas, des révolutionnaires qui étaient pas en prise avec que ça soit au Guatemala ou etc. Enfin, ou dans d'autres pays où il y avait peu de fusion des guérillas. Enfin, c'était cette cohabitation, elle était très difficile. Ce qui s'est passé avec le mouvement zapatiste, c'est que le mouvement de guérilla, il a été littéralement repris en main par des organisations indiennes qui étaient déjà extrêmement fortes, extrêmement puissantes et qui avaient déjà un rapport à la gauche mexicaine qui était déjà de Bon, ils avaient déjà une expérience et souvent une mauvaise expérience, donc avec des anciens conseillers, souvent maoïstes, qui ont été expulsés des communautés ensuite parce que voulant instrumentaliser les communautés, quoi. Donc quand il y a une guérilla qui s'est développée au Chiapas, très vite elle a été réappropriée par les communautés indiennes. Et au départ, un mouvement de guérilla qui était même d'ampleur nationale, il a été repris. Les communautés ont nommé elles-mêmes leurs commandants. Et c'est pour ça d'ailleurs que on l'appelle le sous-commandant, parce que c'est pas la direction du mouvement, ça s'appelle le comité clandestin révolutionnaire indigène, et qui est nommé depuis les communautés. Donc là, il y a eu un espèce de renversement qui s'est fait dans les années d'avant 94, et c'est le seul truc en fait qui a permis aussi qu'il y ait une insurrection armée, parce qu'à cette époque-là, en 94, il n'y avait aucun mouvement armé en Amérique latine qui espérait dans un soulèvement, quoi. On était vraiment au cœur du néolibéralisme. Tous les groupes révolutionnaires de l'époque, ils faisaient un peu le deuil de la lutte, quoi. Et ça, le fait que la situation en fait au Chiapas, elle était différente, c'est qu'il y avait en 92, il y a eu la destruction des derniers droits, on va dire, collectifs des communautés paysannes, donc ils avaient un droit collectif sur la terre, et il y a eu l'abrogation d'un article de la Constitution qui disait que ça allait privatiser la terre. Il y a eu la destruction complète des cours du café, etc. Donc il y a eu énormément de gens qui se sont retrouvés dans la misère, pour qui il n'y avait plus d'autre solution que... Enfin, ils étaient vraiment à bout, quoi. Donc, à ce moment-là, ils ont décidé de faire le soulèvement. Mais, c'est à comprendre vraiment dans un mouvement indien qui a décidé de prendre lui-même son autonomie aussi, malgré toutes les théories de l'époque, tous les courants de l'époque qui disaient ce qu'il fallait faire au niveau. Des grands penseurs marxistes, etc., qui disaient ce qu'il fallait faire. Oui, ils ont dit, nous, on fait notre propre chemin. À un moment, on a d'ordre à recevoir de personnes, et on fait notre propre chemin, quoi.
Toujours est-il que le ZLN est créé donc en 83. Pendant 10 ans, quasiment, ils sont clandestins. Personne ne connaît leur existence. Comment c'est possible, ça, de monter une armée, de faire venir des armes sans que personne s'en aperçoive?
Ben, c'est la réalité qui nous montre que c'est possible. Mais s'il y avait une possible démonstration que ça n'a pas eu lieu, moi, je ne m'aurais pas mieux que d'en discuter. Ça s'est pu. Mais ça s'est pu aussi parce que, comme le dit fort bien le sous-commandant Marcos dans certains textes, leurs propres idées de groupuscules révolutionnaires ont été vaincus, et heureusement, dit-il, par les idées des communautés indiennes. C'est-à-dire qu'à un certain moment, cette autonomie indienne qui a toujours existé s'est transformée en une complicité peu à peu, parce que les structures, le pouvoir, ils savaient que c'était l'ennemi. Les structures des communautés indiennes avaient une habitude de clandestinité, avaient une habitude de passer inaperçu entre les mailles de cette société moderne qui les encercle.
Alors il y a avec l'émergence du mouvement zapatiste, il y a presque, pour caricaturer, on pourrait dire un style qui apparaît. D'abord, une manière de communiquer, une autre communication est possible. On voit, y compris le commandant Marcos, qui a un style très particulier, très très reconnaissable. Il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de visage, qu'il n'y ait pas vraiment de personnalité qui incarne le mouvement. C'est assez étonnant l'émergence sur la scène politique internationale du mouvement zapatiste. Il nous arrive en tout cas ici sous des formes surprenantes.
Oui, hélas, il arrive en pointillé parce qu'il y a très peu de gens qui le relaient. C'est-à-dire il y a très peu de journaux qui ont cité les zapatistes, qui ont raconté un peu leur histoire, même au jour le jour. Toutes les notices des quotidiens étaient absolument crapuleuses. Il nous arrive des passe-montagnes qui sont extrêmement expressifs, qui sont absolument irremplaçables les uns les autres. On ne peut pas mettre quelqu'un d'autre sous la capuche de Marcos, même si on ne voit pas sa figure. Plus personne n'en a rien à faire. On connaît ses inflexions, on connaît le début de sa barbe qui dépasse un peu de son passe-montagne, on connaît sa pipe, et personne ne pourrait se mettre à la place. Et même les autres, ils ont des noms et peu à peu on les connaît. Le fait de mettre des passe-montagnes pour être vu pour des Indiens, c'était quelque chose qui était paradoxal et très très bien. Quoi.
Moi je pense que justement tout le monde pourrait se mettre à la place. Tout le monde pourrait se mettre à la place d'un passe-montagne. Si ça, il y a aussi ce truc de dire à un moment donné, l'important c'est pas le charisme du leader, l'important c'est la rébellion qui s'y manifeste. Et donc ça veut dire que un mouvement il tient pas. Faut voir ça dans un contexte mexicain aussi, dans un contexte latino-américain aussi, où il y a eu beaucoup d'icônes, il y a eu beaucoup d'emphase sur le leader et on l'a suffisamment reproché à Marcos, y compris de la part des apatistes eux-mêmes, quoi, qui ont parfois à la fois sont servis de Marcos pour communiquer vers l'extérieur en tant que le plus à même de vu qu'il connaissait à la fois il est issu de cette tradition intellectuelle mexicaine, il connaît extrêmement bien le Mexique, les médias mexicains, etc. Mais à la fois aussi ça a pu lui être reproché. Derrière l'usage des passe-montagnes, il y a vraiment une volonté vers l'extérieur de dire attendez, il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui se révoltent. C'est pas une personne et il y en a encore d'autres qui pourraient prendre les passe-montagnes si les problèmes auxquels on se confronte doivent nous entraîner jusque là, quoi. Il y a aussi cette dimension.
Alors justement, puisqu'on est à parler de cette relation avec l'extérieur, on l'a évoqué tout à l'heure, enfin Joanie, tu l'as évoqué tout à l'heure, les différents moments où les apatistes sont allés vers la société civile mexicaine. On va en parler un petit peu, puisque tu as été témoin de la marche de la couleur de la terre, donc en 2001, où les Mexicains sortent du Chiapas pour aller à la rencontre des Mexicains. Tu en as donc tiré un film qui s'appelle La Fragile Armada. Qu'est-ce que ça a été ce moment-là au Mexique pour les Mexicains et au Chiapas pour les apatistes?
Au Mexique en général, puisque les suivre, ça voulait dire ne pas rester au Chiapas. On a vu le point de départ. Au Mexique, en général, ça a été un grand moment d'euphorie. C'est ce que traduit un peu notre film à travers toutes sortes de gens qui se mettent à parler une parole très facile, brusquement, sur toutes les places de village ou de ville ou de banlieue, et ensuite dans la capitale. Et de voir justement ces passe-montagnes qu'on pourrait confondre les uns avec les autres peu à peu à se mettre à parler devant des foules beaucoup plus importantes. C'est très souvent des gens qui parlent seulement une langue indigène, une langue indienne, et non pas l'espagnol. Et peu à peu, ils se retrouvent à parler devant des gens très loin de leur village. Certaines, en particulier de la commandante Yolanda, je m'en rappelle, n'étaient jamais sorties de sa région. Donc c'est aussi une sorte d'école où, brusquement, ils se confrontent avec des foules de plus en plus nombreuses. La capacité de parler de Marcos, c'est une sorte de relais et leur laisse à un certain moment le champ libre. Et on voit qu'il y a d'autres orateurs qui se sont formés et que si Marcos ne peut plus assumer sa fonction à un certain moment, il y a plein de gens qui disent des choses tout à fait étonnantes. Ça, c'était un moment très agréable. On l'a fait en film avec Jacques Kébadian. Très rapidement, on a organisé une équipe de tournage. Maintenant, je suis en train d'accompagner des projections qui se passent un peu partout en France et en Belgique. Et bon, j'en profite pour dire que samedi prochain, à 18h, au cinéma Image d'ailleurs, il y a probablement la dernière projection sur Paris avec débat en présence des réalisateurs.
D'accord, bon, j'avais prévu de le dire à la fin, mais enfin bon, maintenant que c'est fait, la pub est passée.
Redis-le quand même.
Oui, on le redira. toujours est-il que ça, c'est quand même assez important, cette volonté qu'ont les apatistes d'aller vers les autres. En juin dernier, d'un coup est tombée l'alerte rouge, proclamée sur tout le Chiapas. Alors je ne sais pas comment les uns et les autres l'ont pris, mais en tout cas ça a été une surprise que d'un coup il y ait cette alerte rouge qui soit proclamée, puisqu'elle est proclamée en général que quand il y a une attaque. C'était pour prendre le temps de discuter pour les apatistes. Et à l'issue de ces discussions, de cette concertation, ils ont donc proclamé la sixième déclaration de la forêt lacandone. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspond ce texte et quelle est cette étape du mouvement zapatiste?
Je vais déjà revenir en fait sur le contexte. C'est vrai que au moment où il y a eu l'alerte rouge, nous, comme énormément de gens, on s'est dit que c'était la situation locale qui commençait à devenir extrêmement extrêmement tendue. Il faut savoir que là, on l'a peut-être pas dit, mais depuis 94, les militaires sont jamais partis des communautés. Ils y sont même extrêmement bien installés, vu qu'il y a des campements militaires qui sont installés à proximité de toutes les communautés rebelles. Il y a encore une centaine de campements militaires au Chiapas. Je crois qu'il y a près de 60 000 militaires mexicains. Il y avait des organisations qui avaient calculé que c'était près d'un quart de la surface militaire occupée par l'armée l'était au Chiapas, et notamment quelque chose, même si l'armée n'a jamais intervenu, il faut rappeler que l'armée a formé des groupes paramilitaires, en fait, a formé, financé, entraîné des groupes paramilitaires, souvent à la solde des caciques locaux, pour la répression, quoi, pour faire les bases œuvres, quoi. Donc il y a eu un certain nombre d'assassinats et même parfois extrêmement graves, quoi, qui sont déroulés. Et ça n'a pas changé depuis même après le 2000 où le gouvernement mexicain est soi-disant rentré en démocratie avec le changement du parti au pouvoir, quoi. Et donc nous, quand il y a eu l'alerte rouge, il y avait pas mal de signes qui disaient qu'il y avait une reprise de la paramilitarisation, qu'il y avait notamment le gouvernement qui faisait pression sur les banques pour couper la solidarité avec les communautés. Nous, on s'est dit, là, ça s'échauffe, quoi. Et en fait, c'est un peu lié, quoi. Ça faisait un moment qui disait que la construction de l'autonomie en soi ne suffirait pas, quoi. Que la construction de toutes les formes d'autogouvernement qu'ils avaient menées, ça représentait un énorme saut pour eux dans à la fois leur organisation, à la fois la résolution des problèmes de la vie de tous les jours, de santé, d'éducation, de travail, d'organisation pour leur subsistance, mais ils ont dit à un moment donné, falta lo que falta, quoi. La lutte, ça peut pas faire, ça peut pas, on peut pas s'arrêter là pour lutter, quoi. Et donc, la sixième déclaration, elle est apparue dans ce contexte, dans le contexte de dire, on a créé nos formes de gouvernement jusqu'au niveau régional, mais maintenant, reprenons cette lutte qu'on avait entrepris depuis 94, où on avait essayé de soulever tout le Mexique, et refaisons qu'il fallait refaire des alliances avec d'autres mouvements dans tout le reste du Mexique, pas simplement indigènes, mais aussi des gens des villes, des ouvriers, des étudiants, des chômeurs, ce qu'ils appellent les travailleurs et les travailleuses sexuelles, toute cette diversité avec qui ils voulaient pas simplement depuis le début, ils ont voulu pas simplement une solidarité, mais avec qui ils veulent lutter, quoi. Et la sixième, le message principal de la sixième déclaration, c'est celui-là, quoi. C'est reprenons la lutte au niveau de tout le Mexique et au niveau international. Faisons un pas en avant, quoi.
Yes. salgamos de la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesino y los obreros, siempre juntos todo el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Nuestra patria exige ya acabar la explotación. Nuestra historia dice ya lucha de liberación. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Ejemplares hay que ser y seguir nuestras consignas, que vivamos por la patria o morir por la libertad. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas.
Et voilà, en plus d'avoir de parler donc des zapatistes, on écoute certaines de leurs chansons qui elles aussi. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Donc voilà, c'est pas du goût de tout le monde parce que c'est vrai que bon. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Guillaume, tu voulais poser une question. Après, Sylvie en avait une. Donc, puisque c'est le moment où tout le monde a envie de poser des questions, puisqu'il nous reste un quart d'heure.
Ouais, c'est ça. Donc, je voulais juste simplement, comme je connais très mal ce qui se passe au Chiapas, j'ai suivi ça loin de France. Concrètement, quel est le contenu du discours et des proclamations? C'est quoi le programme? Il y a un programme politique, il y a une forme d'organisation de la société, il y a une volonté de transformer l'organisation du travail, il y a une volonté de s'approprier la terre, l'outil, les moyens de production, l'outil industriel. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ces zapatistes? Voilà.
La sixième, c'est surtout.
La sixième déclaration,
on va préciser, parce qu'il y a eu cinq déclarations jusqu'à présent. La première, elle était en 94, et la cinquième, donc, elle a été en 98. Donc, depuis sept ans, il n'y avait pas eu de grandes déclarations comme celle-là. Et c'est, eux, ce qu'ils disent, c'est, organisons-nous concrètement face au système capitaliste, c'est ça le truc. Organisons-nous concrètement, ça veut dire que pour eux, il n'y a pas, n'y a pas de solution conséquente qui peut venir d'une logique électorale, quoi. Ça veut dire une logique électorale, c'est élire quelqu'un pour que élire quelqu'un en haut à gauche pour ce qui est de la gauche pour réaliser les aspirations du peuple. Eux, ce qu'ils disent, c'est l'important, c'est que on s'organise en bas, quoi. Tant qu'on sera pas organisé en bas, en haut, ça sera toujours autre chose que ce que nous on voudra. On sera toujours atomisé. Il y aura jamais une véritable, on n'aura jamais une force commune. On n'aura jamais une possibilité d'arriver à quelque chose de communiste pour mettre le mot, mais ça veut dire d'une organisation collective, quoi. Et donc l'appel de la sixième, il a été fait dans un contexte qui est celui des élections présidentielles au Mexique qui vont se faire en 2006. et donc il a été lancé dans ce contexte-là en disant la solution, nous on la voit pas dans les partis qui se présentent, qu'ils soient de droite ou de gauche, parce que au Mexique il y a le nouvel héros de la gauche mexicaine, c'est quelqu'un qui s'appelle López Obrador, qui est, bon, on prédit que ça sera lui le nouveau président, et eux disent de toute façon lui il appliquera une nouvelle politique libérale parce que voilà, l'argent contrôle, et donc quelle que soit la marionnette qui prend le pouvoir, ça changera pas grand chose. Et nous, on compte pas marcher dans cette combine. Donc, ce qu'ils proposent, c'est antagoniste un peu, on va dire, avec les plans de la gauche électorale. Ce qu'ils proposent, c'est une espèce d'alliance des mouvements sociaux et de forces sociales dans tout le Mexique, de manière à faire des accords concrets, des accords qui soient de lutte. Et ça, pour eux, c'est pas une temporalité qui a à voir avec des élections. C'est pas une histoire de mois, c'est une histoire d'années, voire de dizaines d'années. Quand ils parlent, souvent, ils font nous, ce qu'on fait, on fait les graines. Là, on en est aux graines. Et c'est dans ce contexte, c'est ça le programme. C'est pas de dire il faut ci, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Ils disent chaque organisation, chaque mouvement social est autonome un peu dans ses projets, dans ses réalisations. Après, ils expliquent dans la sixième, c'est aussi une analyse de eux, comment ils voient le Mexique, comment ils voient le monde. Et eux, pour eux, c'est très clair. Il y a une domination d'un système, globalement, on appelle le système capitaliste. Et après, il y a de très très nombreuses résistances qui sont extrêmement diverses suivant les gens qui la manient, et c'est cette alliance-là, cette coordination-là de ces résistances qui pourra aboutir à quelque chose pour eux.
Non, mais globalement, depuis le début, le mouvement, il a évolué aussi par rapport au pouvoir et par rapport au système électoral, etc. Il est né aussi d'un besoin de réappropriation de la terre, très clair, en 94. Ça a aussi été une révolution où ils sont allés s'approprier des terres, où ils ont expulsés, virés des lacandons, etc. Ensuite, en 2001, on a parlé tout à l'heure donc de la marche de la couleur de la terre. Ça a été peut-être une euphorie, ça a aussi été une grande déception. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait un nouveau président qui était Fox, qui venait d'arriver. Donc pour la première fois, il y avait une alternative au prix. Ils vont jusqu'à Mexico pour demander à ce que soient enfin appliqués les accords de San Andrés qui avaient été précédemment signés. Et à ce moment-là, il y a une fin de non-recevoir. Donc il y a comme ça des étapes dans la lutte zapatiste qui vont vers une radicalisation de leur rapport au pouvoir et aux classes dirigeantes. Et là, c'est très clairement pour eux le moment de dire on ne croit pas au système électoral, ce ne sera jamais par là que ça va passer, ce sera toujours en bas à gauche. Et dans ce moment de campagne électorale, nous, on va sortir et on va faire ce qu'on appelle l'autre campagne, qui est d'aller à la rencontre de la société civile, d'aller à la rencontre de toutes les luttes et d'essayer de s'organiser en bas à gauche en s'écoutant. Et en arrivant à justement passer, parce que le Mexique, comme en France et comme ailleurs, il y a un passé politique d'extrême gauche très très fort, très 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 riche aussi. Et du coup, il y a aussi beaucoup de groupes séparés les uns des autres, etc. Et là, c'est vraiment une espèce de tentative quand même de rassemblement. Et voilà quoi.
Oui, mais concrètement, matériellement, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place ?
Eux, pour le moment, ils ont mis en place beaucoup de choses déjà. Donc, c'est pas ils veulent, c'est la grande différence. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est l'autonomie de leur... Donc, ils ont déjà créé des... Au Chiapas, il y a aujourd'hui 5 régions qui sont organisées de façon complètement autonome et c'est l'autogouvernement, c'est tout ça, quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses, donc ils ont...
En quoi elles consistent ? Parce qu'ils disent eux-mêmes, ils disent démocratie, justice, liberté, c'est 3 des mots d'ordre, des slogans qu'ils répètent et qu'ils mettent en tête de leurs écrits. Et cette démocratie n'est pas effectivement cette simple démocratie parlementaire ou démocratie électorale. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas que les gens votent, c'est pas qu'ils soient partisans d'une dictature du prolétariat ou d'une avant-garde qui permettrait de prendre le pouvoir. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est que cette démocratie soit démocratisée, c'est-à-dire que s'inspirant en particulier des traditions indiennes, des us et coutumes, les réformant quand il s'agit simplement de voir le rôle des femmes, mais s'en inspirant de toute façon, ils veulent des mandats extrêmement courts, des gens qui ne soient jamais payés, ils veulent des gens qui tournent avec une certaine fréquence, qui dans leur communauté passent du rôle de simple agent de police au rôle de conseiller, de membre du conseil, et puis ensuite éventuellement d'une sorte de maire, mais tout cela avec une possibilité de révoquer les gens très très rapidement. C'est très bien décrit par beaucoup d'anthropologues et c'est repris par toute la tradition des mouvements rebelles indien, c'est cette façon de s'opposer à ce pouvoir qui, sous prétexte d'avoir cédé des représentations, donné des mandats à long terme, finit par appliquer une politique qui n'a à voir qu'avec leur club privé et qui est aussi rémunérée, des choses comme ça. Donc il y a un certain nombre de normes qui correspondent à ça.